C'est l'heure du journal avec vous, Adrien Taufollet. Bonjour Adrien.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Mieux préserver l'essentiel, se soigner, travailler, se former, s'éduquer, c'est la ligne développée hier par Jean Castex. Le Premier ministre a dévoilé l'organisation du second confinement qui doit permettre de freiner l'épidémie de coronavirus. Il a démarré cette nuit pour une durée d'au moins un mois. Des règles moins strictes qu'au printemps, comme promis nous dira Sophie Delpont.
Le masque à l'école pour tous à partir de 6 ans, seule véritable nouveauté du protocole sanitaire pour l'école, annoncé hier par Jean-Michel Blanquer. Les syndicats enseignants font déjà part de leur inquiétude, expliquera Alexis Morel.
Près de 3150 malades hospitalisés en service de réanimation, la barre des 36 000 décès du Covid dépassée en France. L'épidémie est de plus en plus virulente, en particulier dans les maisons de retraite, témoignage d'un médecin de Roubaix dans ce journal.
Direction Nice ensuite, 24 heures après l'attaque au couteau à la basilique Notre-Dame. Le profil et le parcours du tueur est désormais connu. Il s'agit d'un ressortissant tunisien arrivé en Europe au tout début du mois. Précision de Mathilde Vincenneux.
Et puis en Turquie, l'inquiétude grandit dans la communauté arménienne face au soutien inconditionnel de Recep Tayyip Erdogan à l'Azerbaïdjan. Correspondance signée Alan Lauer. Emmanuel Macron dans les grandes lignes mercredi soir. Jean Castex dans le détail hier soir. Le Premier ministre a décrit les conditions pratiques du nouveau confinement entré en vigueur cette nuit pour faire face à la deuxième vague de Covid-19. Entouré des ministres de l'Éducation nationale, de l'Économie, du Travail, de la Santé et de la Culture, il a présenté les mesures de restriction et les dérogations, toutes ces règles qui vont organiser la vie des Français pendant tout le mois. Sophie Delpont.
L'air grave, le chef du gouvernement a commencé par énoncer la liste des restrictions de déplacement.
Il ne vous est pas possible d'aller chez des amis ou de recevoir de la famille à la maison. Il ne vous est a fortiori pas possible de vous déplacer au-delà d'un kilomètre de chez vous en dehors des motifs prévus. Il ne sera pas possible davantage de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire.
Jean Castex souligne que contrairement au printemps dernier, les parcs, jardins et plages resteront ouverts. Le Premier ministre appelle à télécharger l'attestation de déplacement sur le site internet du gouvernement, disponible aussi sur l'application Tous Anti-Covid, et rappelle l'amende encourue en cas de non-respect de cette règle.
Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement. Et si vous ne pouvez pas présenter de justificatif alors que vous êtes contrôlé en dehors de votre domicile.
Mais le Premier ministre insiste aussi sur les différences de ce nouveau confinement par rapport à celui du printemps dernier. Les écoles qui restent ouvertes, mais avec le port du masque obligatoire dès 6 ans. Les Français seront-ils aussi disciplinés qu'au printemps? À cette question, Jean Castex répond qu'il croit au bon sens.
Les Françaises et les Français, depuis plusieurs mois, sont très inquiets, fatigués, exténué même par cette crise. Et je les comprends tout à fait. Mais ils ne se trompent pas d'ennemi. L'ennemi, c'est le virus.
Voilà, le Premier ministre donne rendez-vous dans 15 jours pour évaluer les premiers effets de ce nouveau confinement.
Sophie Delpont, pour ce qui est des activités autorisées, notons que les lieux de culte restent ouverts pendant le confinement, mais les cérémonies religieuses sont interdites, à l'exception des enterrements dans la limite de 30 personnes et des mariages, mais avec une jauge réduite à 6 personnes maximum. Et puis, une précision du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui n'était pas présent aux côtés de Jean Castex hier. Les tribunaux restent bien ouverts en France, toute l'activité juridictionnelle est maintenue, alors qu'au printemps, elle avait été limitée aux urgences civiles et pénales. Enfin, dans les prisons, pas question de remettre en cause les conditions de vie avec les parloirs ou le travail en détention. À quelques jours de la rentrée des classes, on connaît maintenant le protocole renforcé qui permettra l'accueil de tous les élèves sur l'ensemble du temps scolaire. Il a été présenté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, mais il n'a pas vraiment réussi à rassurer les syndicats d'enseignants. Loin de là, Alexis Morel.
Le protocole présenté par Jean-Michel Blanquer hier soir ressemble sur certains points à celui de mai-juin, sans être aussi restrictif. Le principal changement, bien sûr, c'est le port du masque pour les élèves dès le CP. À part ça, on retrouve quelques règles du printemps, l'étalement des arrivées le matin, des déplacements limités au maximum dans les couloirs, des récréations par petits groupes, ainsi que la distanciation d'un mètre à la cantine autant que possible. Autant que possible, l'expression revient souvent dans la bouche du ministre, pas d'obligation obligation stricte comme en mai. C'est largement insuffisant pour Sophie Vénétité du SNES FSU.
On demandait une règle nationale visant à limiter les effectifs dans les classes, à passer sur un fonctionnement en demi-groupe, des groupes avec moins d'élèves. Ça a été balayé d'un revers de la main par Jean-Michel Blanquer. On comprend mal pourquoi, puisque c'était quand même une des solutions les plus simples pour assurer la sécurité des élèves et des professeurs.
Jean-Michel Blanquer laisse tout de même la possibilité aux proviseurs localement de basculer certains élèves en enseignement à distance, mais pas de règles communes donc. De son côté, le SNES ne veut pas en rester là et a déposé par précaution un préavis de grève à la disposition des professeurs qui ne se sentiraient pas suffisamment protégés.
Par ailleurs, nouvelle formalité pour les établissements scolaires. Ils devront signer des attestations permettant aux parents de sortir de chez eux pour emmener et aller chercher leurs enfants à l'école. Venons-en au volet économique de ce reconfinement. Le gouvernement estime que l'activité va chuter seulement de 15% après avoir plongé de 30% lors du premier confinement, notamment grâce au recours au télétravail qui n'est pas une option, a bien prévenu Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Ce sera d'ailleurs inscrit dans la nouvelle version du protocole national en entreprise qui permettra aux salariés de se retourner contre leur employeur en cas de non-respect des règles, Simon Cardona.
Pour Elisabeth Borne, il faut distinguer trois types de situations pour les entreprises à partir de ce matin.
Un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches en télétravail doit le faire 5 jours sur 5. Ceux qui ne peuvent pas effectuer toutes leurs tâches à distance peuvent se rendre une partie de leur temps sur le lieu de travail. Troisième cas de figure, certains métiers ne peuvent être réalisés à distance. Les employeurs seront tenus d'aménager des horaires d'arrivée et de départ afin de limiter l'affluence aux heures de pointe.
Ce qui change aussi par rapport au premier confinement, c'est l'inscription du télétravail au protocole national en entreprise, une mesure qui, selon Benoît Serre, vice-président délégué de l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, a le mérite de responsabiliser l'ensemble des entreprises.
Le protocole, il n'est pas opposable au sens juridique. Mais vous savez que les entreprises ont une responsabilité pénale de protection de leurs collaborateurs et de leur santé. Eh bien, un collaborateur pourrait dire « Vous n'avez pas mis en place le protocole sanitaire puisque je n'ai pas télétravaillé alors que je le pouvais. Et par conséquent, vous n'avez pas respecté votre obligation de responsabilité de ma santé. »
Au premier confinement, environ 30% des entreprises avaient mis en place le télétravail.
On soutient le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce notamment le renforcement du fonds de solidarité pour les entreprises obligées de fermer. Les nouvelles mesures de soutien s'élèveront à 15 milliards d'euros par mois. Et le ministre précise ce matin chez nos confrères de France Inter que le gouvernement table désormais sur une récession de 11% en 2020. L'INSEE, elle, prévoyait 9%. Un mot de la situation épidémique en France. La barre des 36 000 décès du Covid vient d'être dépassée. 250 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. Près de 3150 malades sont hospitalisés en service de réanimation, des hospitalisations toujours en hausse. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, demande à tous les hôpitaux d'activer leur plan blanc pour libérer des lits. Mais la situation s'aggrave également dans les EHPAD. Jean-Philippe Danquan, médecin généraliste à Roubaix depuis 35 ans, peut témoigner de la virulence de cette deuxième vague dans les maisons de retraite. On l'écoute.
Nous avons environ 20 à 25 personnes touchées, contaminées dans une EHPAD de 80 personnes. Vous voyez, avec déjà quelques décès que nous n'avions pas eu lors de la première phase. Je répète bien, et ça, ce qui est valable pour les EHPAD du centre hospitalier et également pour les EHPAD privés. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus, c'est que finalement, on a une contamination dans les structures personnes âgées que nous n'avions pas eu à la première vague. Et c'est pas qu'on est moins bien préparé, parce que les personnels ont respecté à la lettre les consignes de sécurité qui avaient été demandées par le gouvernement. Simplement, le déconfinement avait permis le retour des visiteurs extérieurs dans les EHPAD. Et de toute façon, il est inenvisageable, et je pense que le président de la République a bien dit qu'il laissait les EHPAD ouverts, et c'est indispensable, si on ne veut pas tout simplement voir mourir nos personnes âgées d'isolement et de dépression, plutôt que de mourir du Covid. Donc franchement, je pense qu'on peut comprendre qu'après les 2 mois de déconfinement, les vacances, les personnes âgées ont reçu de nouveau des visites, le virus est entré à l'intérieur des EHPAD. Donc si vous voulez... Je sais que dans le sud de la France, il y a eu quelques EHPAD qui ont fait la une de la presse, effectivement, qui ont été particulièrement frappés. Mais moi, si je parle de Roubaix, puisque c'est la ville que je connais et dont je m'occupe, eh bien, effectivement, nous n'avions pas été touchés par cette première vague. Et c'est l'un des éléments qui m'inquiète le plus. On verra que les chiffres de mortalité, bien malheureusement, suivront.
Jean-Philippe Danquan, médecin généraliste à Roubaix, propos recueillis par Tara Schlegel. Au lendemain de l'attaque terroriste au couteau qui a fait 3 morts dans la basilique Notre-Dame de Nice, on en sait plus ce matin sur l'assaillant. Il s'agit d'un ressortissant tunisien de 21 ans, entré en Europe par l'Italie. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard a fait le point sur l'enquête hier soir à Nice. Les précisions de Mathilde Vinceneux.
Il arrive sur l'île de Lampedusa le 20 septembre dernier, puis débarque à Bari le 9 octobre. On ignore ensuite comment il a rejoint la France. Les enquêteurs retrouvent sa trace à 6h47 hier matin en gare de Nice. Grâce à la vidéosurveillance, on le voit retourner sa doudoune, changer de chaussures, puis se diriger vers la basilique à 400 mètres de là. Il y entre 8h29. L'attaque dure une demi-heure avec un couteau de 30 cm. Il égorge le sacristain, une femme en blesse une autre qui s'enfuit avant de mourir dans un café. Ce parcours meurtrier prend fin quand 4 policiers municipaux pénètrent dans la basilique. Ils tirent 14 fois. L'assaillant, hospitalisé et opéré, est toujours entre la vie et la mort. Il est inconnu des services de renseignement. Seul indice sur lui, un papier de la Croix-Rouge italienne. Et dans la basilique, un Coran, 2 téléphones et un sac avec 2 autres couteaux.
C'est la France qui est attaquée, mais nous ne céderons rien, a réagi hier Emmanuel Macron. Ce matin, le chef de l'État présidera un nouveau conseil de défense avec à l'issue de nouvelles mesures contre le terrorisme islamiste. Hier, il a déjà annoncé le déploiement partout en France de 7000 soldats de l'opération Sentinelle contre 3000 actuellement. Le billet politique sera d'ailleurs consacré à cette crise qui touche le pays, alors qu'au même moment, nous faisons face à une seconde crise d'ordre sanitaire, situation qui met à l'épreuve l'unité nationale, expliquera Stéphane Robert. Ce sera à 8h16. Les réactions internationales de soutien suite au drame ont été nombreuses hier, des États-Unis au Brésil, en passant par la Mauritanie et même la Turquie, malgré les tensions entre Paris et Ankara. Les autorités de Tunisie également, d'où vient l'assassin, condamne fermement et appelle à des efforts internationaux conjoints pour lutter contre le terrorisme.
France Culture, 8h11, la suite de votre journal, Adrien Toffolet. On en vient à la Turquie et son président Recep Tayyip Erdogan. Quand il n'est pas occupé à s'attaquer à Emmanuel Macron ces derniers jours, le président turc s'implique dans le conflit dans le Haut-Karabakh.
Depuis la reprise du conflit entre séparatistes appuyés par l'Arménie et l'armée azerbaïdjanaise, la Turquie est le seul pays à soutenir de façon inconditionnelle Bakou sans jamais appeler à un cessez-le-feu. Recep Tayyip Erdogan met en avant les liens ethniques et culturels entre son pays et l'Azerbaïdjan, qualifiant même l'Arménie d'État voyou, un discours largement relayé dans les médias locaux qui inquiète la petite minorité arménienne de Turquie à Istanbul. Les explications d'Anand Lower.
Au bout du fil, Armen, arménien de Diyarbakır, grande ville du sud-est de l'Anatolie, plus proche à vol d'oiseau de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan que d'Istanbul, où vivent la plupart des 60 000 arméniens de Turquie. Depuis la reprise du conflit dans le Haut-Karabakh, Armen se dit tendu, stressé.
Je ne vais plus au café. Vous savez, au café, on parle de politique. Et mes voisins, ils croient ce qu'écrit la presse turque qui n'écoute qu'un seul camp dans ce conflit. J'ai peur qu'il arrive du mal aux arméniens d'ici. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
Armen a en tête le discours anti-Arménie propagé depuis un mois dans la plupart des médias turcs qui dérapent facilement en discours anti-arménien. Il pense au klaxon et au drapeau de l'Azerbaïdjan, agité à quelques reprises sous les fenêtres des quartiers où les Arméniens sont nombreux. À Istanbul, Ara Kochounian est le rédacteur en chef de Jamanak, quotidien en langue arménienne. Il reconnaît des inquiétudes, mais aussi beaucoup de peine dans sa communauté.
Nous souffrons avant tout du retour de la violence dans le Caucase, et pas seulement, c'est important de le dire, parce que des Arméniens y meurent. Bien sûr, tous les membres de la communauté arménienne de Turquie ne vivent pas les tensions actuelles de la même manière et avec la même psychologie, mais malheureusement, le climat de guerre encourage notre mise à l'écart de la société.
Malgré ce lourd climat, Jamanak vient de fêter ses 113 ans. Cette longévité en fait le quotidien le plus ancien de Turquie, mais aussi le plus vieux du monde, publié sans interruption en langue arménienne.
Anand Lower, un drame au large du Sénégal la semaine dernière, mais on ne l'apprend que ce matin. Au moins 140 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation de migrants. Il s'agit de la pire catastrophe de ce type en 2020, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Aux États-Unis, alors que l'épidémie de coronavirus bat de nouveaux records, 90 000 contaminations au Covid en 24 heures, Joe Biden continue d'attaquer Donald Trump sur sa gestion de l'épidémie. En campagne en Floride, un état clé, le candidat démocrate reproche au président sortant d'organiser des meetings ultra-propagateurs du virus. De son côté, Donald Trump s'est vanté des résultats économiques, hausse de plus de 33% du PIB au troisième trimestre. Il promet même une année 2021 de tous les records. En Italie, la loi permet que les biens confisqués à la mafia ne soient pas vendus aux enchères, mais confiés à des associations ou à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors qu'une telle loi est en préparation en France, le grand reportage de la rédaction vous emmènera cet après-midi en Calabre à la rencontre de ceux qui essayent de transformer l'ancienne économie mafieuse en entreprise vertueuse. Domenico Fazzari exploite des vergers de clémentine et des oliveraies sur l'ancienne propriété d'un chef de la mafia calabraise, organisation dont l'emprise se fait toujours ressentir dans la région et aussi sur son exploitation. Écoute.
La 'Ndrangheta est présente, les mafias sont toujours présentes et actives, la preuve, les attentats que nous avons subis. Il y en a eu un tous les 6 ou 7 mois en moyenne, ces 7 dernières années.
Qu'est-ce qu'il y a eu précisément comme attentat?
Ils ont été variés. Voler des véhicules, couper les jeunes oliviers, détruire une partie des systèmes d'irrigation en été, juste au moment où les plantes ont le plus besoin d'eau. Et puis il y a eu aussi des menaces personnelles et des tentatives d'intimidation plutôt claires, comme quand on jette des têtes de poisson sur le pas de la porte de votre entreprise. La 'Ndrangheta sait très bien se faire comprendre. Mais à mon avis, ils n'iront pas au-delà de certaines limites. En fait, leur but, ce n'est pas d'endommager notre activité ni de la détruire, mais de décourager les gens, les pousser à se dire « j'en peux plus, je laisse tomber ». Ça n'est pas arrivé jusqu'à présent et j'espère que ça ne se produira pas à l'avenir.
Ce reportage est signé Isabelle Souquet, réalisé par Annie Bro. Rendez-vous à 17h avec Aurélie Kiefer. Il y aura deux France aujourd'hui en ce qui concerne la météo, celle du nord sous la grisaille, celle du sud avec du soleil. Quelques gouttes de pluie même à prévoir près des côtes de la Manche. Les températures ce matin varieront entre 7 et 14 degrés, entre 14 et 24 cet après-midi.
Merci Adrien Toffolet.